Bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition de BAF Radio. Ce soir, Chronique de France avec notre ami Michel de Poncin. Alors, il y a plein de nouvelles choses à l'actualité ce soir, notamment le constitutionnel, vient d'accepter le CPE sans aucune réserve. Bonsoir Michel.
Bonjour Adrien, donc à tous les auditeurs qui peuvent intervenir pendant l'émission. En effet, la nouvelle vient de tomber il y a quelques instants que le Conseil constitutionnel avait accepté le CPE. C'est la fin d'une incertitude dans ce domaine, parce qu'il y avait des incertitudes à plusieurs niveaux. L'on pouvait se demander, même si le pouvoir n'allait pas passer par des filières quelconques au Conseil constitutionnel, l'invitation à rejeter le CPE, ce qui lui permettait de reculer sans trop perdre la face. Mais semble-t-il, soit les consignes ne sont pas passées, soit le Conseil constitutionnel de lui-même a bien dit que le CPE n'était pas anticonstitutionnel. Mais cela montre le désordre complet dans lequel le pays est, parce que la France tourne autour de milliers et de milliers de lois et de règlements de toutes sortes, et lorsque une loi est votée et décidée, on ne sait jamais si elle sera vraiment décidée, car un certain nombre d'organismes sont aux aguets. Vous avez le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, et puis vous avez au niveau européen la CE. Il faut dire que le malheur pour la France d'être dans l'Europe, c'est que l'Europe dit son mot surtout à tort et à travers, et quelquefois elle dit son mot 2 ans après en annulant des lois. Bon, de sorte que actuellement, en tout cas, la loi est passée, et tout au moins devant le Conseil constitutionnel, et à ce moment-là, il reste au président de la République, à Jacques Chirac, de promulguer la loi dans un délai de 9 jours. J'ai l'impression que là, il va la promulguer, mais je peut peut-être me tromper, et il va prendre la parole demain, parce que s'il ne la promulguait pas, voilà, ouais. il serait obligé de licencier Villepin, ce qui, je crois, l'ennuierait beaucoup.
Bien. Voilà, donc c'est principalement le CPE qui va faire l'actualité de cette émission de ce soir, en tout cas pour la première partie. En deuxième partie, nous recevrons donc Roland Richard pour sa chronique de France à lui aussi. Et je rappelle à nos auditeurs donc qu'ils peuvent intervenir à tout moment via l'interface de Skype sur le site www.bafweb.com. Alors effectivement, donc c'est à Jacques Chirac de promulguer cette loi, il prendra donc la parole demain, et il a annoncé aussi la nomination éventuelle d'un médiateur. Alors, à quoi ça tient tout ça?
Alors écoutez, c'est encore du désordre, parce que pourquoi un médiateur? On a déjà un médiateur de la République qui coûte très très cher, qui est d'ailleurs le produit du désordre législatif dont je parlais tout à l'heure, puisque dans l'enchevêtrement, il y a une foule de gens qui comprennent pas, etc., et à qui les administrations font du tort. Donc il va éventuellement nommer un médiateur. Je ne vois pas très bien pourquoi un médiateur entre le gouvernement et les organisations syndicales, ça ne me semble pas avoir de sens. Mais en plus, je vais attirer l'attention sur un point, c'est que le CPE part d'un assez bon mouvement, bien que on pourrait encore discuter de ce point. Il part d'un assez bon mouvement pour libérer l'emploi de certaines personnes, mais cela marchera s'il n'y a pas de recours juridique. Or, le Conseil constitutionnel, dans son avis, semble-t-il, que j'ai pas lu, j'ai simplement entendu à la radio, a dit, bien entendu, il pourrait y avoir des recours juridiques si les employés sont licenciés. Je rappelle aux auditeurs qui ne savent peut-être pas forcément que l'esprit du CPE, c'est de faire en sorte qu'il y ait un contrat avec une longue période d'essai qui pourrait aller jusqu'à 2 ans, pendant lequel l'employeur pourrait licencier l'employé sans donner d'explication.
Bien. Alors, revenons un petit peu là-dessus, voulez-vous, juste avant de continuer. Est-ce que selon vous, qui êtes un spécialiste de l'économie française, c'est une bonne situation, c'est une façon de soulager les entreprises?
Alors, je crois que dans les énormes difficultés dressées par le Code du travail contre l'emploi, parce que le Code du travail français, c'est un monument absolument gigantesque, c'est peut-être un monument haut de, je sais pas, de 40 centimètres, rempli de dispositions contradictoires et compliquées, et en particulier ces dispositions empêche les employeurs de se séparer d'un employé qui ne les satisfait pas, quel que soit d'ailleurs le niveau de cet employé. Ça peut être un employé très très supérieur. Et par ce contrat de première embauche, le gouvernement avait l'idée de lever cette difficulté pour certaines catégories de personnes, c'est-à-dire les jeunes. Ce en quoi d'ailleurs je suis très critique, parce qu'il faudrait lever la difficulté pour toute personne. Parce qu'il est certain que si un employeur prend un nouvel employé parce que par exemple il a un gros marché s'étalant sur 6 mois, si au bout des 6 mois il ne peut pas se séparer de son employé, et bien à ce moment-là il n'engagera pas l'employé. Bon, c'est certainement un gros obstacle à l'emploi que d'empêcher les employeurs de licencier les employés. Nous avons cet extraordinaire en France, une disposition qui est très semblable dans les lois sur le logement. Il a été d'abord pendant très longtemps interdit de se séparer de son locataire, c'est ce qu'on appelait la loi de 1948 faisant suite à d'autres lois plus anciennes. Et maintenant, il y a encore de grandes difficultés pour se séparer des locataires. Or, il est certain que pour un propriétaire, c'est extrêmement important de pouvoir se séparer rapidement des locataires, si on veut, et de même pour le locataire, de quitter rapidement le propriétaire, s'il veut. De ce type, eh bien, ça a pour effet qu'il y a une crise dans le logement locatif en France et que beaucoup de propriétaires ne veulent plus louer d'appartements. Alors, eh bien, dans le domaine de l'emploi, c'est la même chose.
D'accord, mais bon, il y a un aspect pratique, on le voit tout de suite, et il y a quand même un aspect quand même légèrement exploitant. Est-ce que c'est normal et juste que quelqu'un qui est dans la position du patron puisse comme ça tailler à merci quelqu'un et le renvoyer sans plus de raison?
Eh bien, pour moi, non, parce que j'estime que si un patron prend un collaborateur, eh bien parce que ce collaborateur lui convient. Le jour où il ne lui convient plus, je crois qu'il faut qu'il puisse s'en séparer. Mais tous ces problèmes-là n'existeraient pas s'il y avait une liberté du contrat de travail. À cause de cette crise du CPE, il y a des articles dans la presse étrangère à ce sujet. Et j'ai lu un article d'un journaliste américain. Et vous savez, en anglais, licencier quelqu'un, ça veut dire to fire. Je sais pas si vous...
Mm-hmm. Mettre à feu, c'est ça.
Mais ça veut dire ça. Eh bien, il disait, cet journaliste américain disait, mais il est clair qu'aux États-Unis, on peut donc fire quelqu'un sans difficulté. C'est grâce à ça que nous n'avons pas de chômage et c'est grâce à ça que les salaires augmentent et que au contraire les firmes cherchent des employés.
Entendu, mais c'est quand même un pays qui a une situation financière au niveau de la dette en tout cas relativement catastrophique. Et puis je veux dire, le tissu social est complètement dégradé justement de par le fait que chacun peut être envoyé à tout moment, qu'il ne peut se fixer nulle part, que certaines personnes font 3 heures de voiture par jour pour atteindre leur lieu de travail. Ça devient impossible aussi comme vie.
Oui, mais il vaut mieux faire 3 heures de travail, de trajet par jour pour trouver son lieu de travail, que de ne pas avoir de trajet à faire et puis ne pas avoir de lieu de travail.
Mais l'idéal, ce serait de pouvoir concilier la chèvre et le chou.
C'est-à-dire le patron. Oui, mais là, dans la vie, vous pouvez jamais concilier la chèvre et le chou. Et puis, le résultat, d'ailleurs, c'est que celui qui fait 3 heures de trajet, eh ben, il prend d'autres solutions. Et puis, en général, il change sa résidence si son travail lui plaît et s'il a le sentiment que le travail est solide et qu'il y a des clients. Bon, si un employeur doit prendre des employés et les garder même s'il n'a plus de clients, la fragilité du salarié est tout à fait considérable. Il est vraiment sur la corde raide. Mais de sorte que je crois que la souplesse dans les relations du travail a énormément d'importance pour ce problème de l'emploi. Et je dirais même... J'ai écrit un livre qui s'appelle « Chômage, fils du socialisme » et je crois que c'est la moitié des causes de ce chômage formidable qu'on a en France, à la fois des jeunes, des seniors et de tout le monde. Eh bien, c'est le code du travail qui est absolument monstrueux. Alors j'ajoute simplement une chose, c'est que en plus cela montre la complexité de cette situation française avec cette inondation de lois. c'est que pendant cette période, puisqu'il y a maintenant peut-être un mois qu'on parle du CPE, beaucoup d'avocats, de magistrats, etc. ont analysé le projet tel qu'il est et n'ont pas manqué de dire que cette liberté de licenciement que Villepin veut installer, ben en fait, elle n'existe pas beaucoup parce qu'il y aura des tas de recours. De sorte qu'en plus, les gens se battent contre ou pour quelque chose qui n'a pas une valeur juridique formidable.
Entendu. Alors maintenant, moi, en tant que, qu'étranger, n'est-ce pas, en ce qui concerne le calcul politique, je veux dire, que pensez-vous qui va arriver donc de la position de Chirac? Maintenant, apparemment, alors, le gouvernement fait bloc derrière Villepin, en tout cas le Conseil constitutionnel. Il semblerait que l'UMP le soutienne. Est-ce que vous pensez que Chirac va soutenir Villepin, histoire de le faire un peu s'enfoncer, n'est-ce pas? Qui va essayer de trouver un moyen de discréditer aussi le gouvernement auquel appartient Sarkozy, pour tout simplement essayer d'avoir des arguments pour se représenter dans quelques mois?
Alors c'est une thèse éventuelle, mais il y a d'autres thèses qui peuvent se mettre en avant. Je dirais ce qui domine, c'est qu'aucun de ces personnages ne pense au bien commun. Ça, c'est ce qui domine.
C'est évident, hein, on est en politique.
Chacun ne pense qu'à son intérêt personnel, soit sa réélection, soit son élection, etc. Alors, dans ce contexte-là, qui fait quoi, qui veut enfoncer qui, c'est très très difficile à savoir. J'avais l'impression jusqu'à présent que Villepin était plutôt pour Chirac une bonne solution, lui permettant de sortir à peu près la tête haute sans se représenter. Bien, mais peut-être qu'il y a en effet une autre idée, je vais me représenter, il faut enfoncer Villepin, mais il prendrait un risque tout à fait considérable, parce que s'il a une démission de Villepin, il est obligé de le remplacer. Par qui? Pourquoi faire? Ce sera ridicule, tout le monde... Je ne dis pas tout le monde rira ou tout le monde pleurera, mais alors peut-être Sarkozy, mais Sarkozy ne voudra peut-être pas, parce que etc. etc.
S'il veut pas, il sera quand même quelque part.
Je ne sais pas, parce qu'il peut dire je suis d'accord avec rien. Il faut que Chirac s'en aille tout de suite et démissionne, et puis voilà. Parce que également Chirac aurait une solution qui serait de démissionner. C'est peut-être également une chose à laquelle il peut envisager. Pour mettre un certain désordre, Sarkozy n'est pas prêt, ni Villepin, et se représenter tout de suite. Je dois dire que, vraiment, je ne sais pas, il y a tellement de cas de figure devant nous que, réellement, on ne peut pas imaginer ce qu'il va... Sauf, je crois, qu'il va promulguer la loi. Voilà.
D'accord.
Et puis peut-être nommer un médiateur, voilà.
Est-ce que ma question, effectivement, avait un sous-entendu? Est-ce que, finalement, tout ce battage autour du CPE ne serait pas le dernier recours de la gauche pour détruire la droite avant les présidentielles?
Ça peut être aussi. Ça peut être aussi. Je ne sais pas. On peut pas savoir ce qui se passe dans les cerveaux des uns et des autres. Il faut pas oublier une chose, c'est que Dès le départ du gouvernement Villepin, et également d'ailleurs du gouvernement Raffarin qui l'a précédé, mais enfin, prenons le gouvernement Villepin, Villepin a fait une chose tout à fait extraordinaire avant sa déclaration ministérielle. Vous savez, quand un Premier ministre est nommé, il va devant les assemblées avec une déclaration ministérielle. Avant de la faire, ce qui ne s'est jamais produit peut-être de mémoire d'homme, il a consulté les organisations syndicales. Bien, ce qui voulait dire... Je donne le pouvoir à la rue. Bien. De sorte que, finalement, on peut dire que ce sont ses camarades et amis qui l'ont trahi en montant au créneau là-dessus. Tu nous as pas consulté, etc. Puisque, justement, tu nous avais consulté même avant ta déclaration ministérielle. Vous voyez le désordre de tout ce mécanisme. Bon. Alors, évidemment, la gauche est rentrée dans... Je prends un terme un petit peu vulgaire, et rentrer dans le chou en disant on y va. Bon, et il ne faut pas oublier que c'est l'intérêt des organisations syndicales, et je dirais l'intérêt de la richesse personnelle des leaders syndicaux, parce que, je ne sais pas si vous savez, mais les syndicats en France sont très très peu représentatifs. les syndicats dont vous entendez parler, CGT, CFDT, FO, etc., n'existent que par les subventions publiques et par la loi qui leur donne des droits différents des autres syndicats, et ils ne représentent que 7% à peu près des salariés, c'est-à-dire que leur représentativité est nulle. Ce qui veut dire que la position personnelle des leaders syndicaux, et leur richesse personnelle, puisque forcément ils sont rémunérés d'une façon bien bien plus forte que si c'était au SMIC, elle repose sur l'action des syndicats. De sorte que devant le CPE, ça, très probablement, les syndicats ont dû dire « on y va, c'est magnifique, on y va, c'est la guerre franche et joyeuse, peu importe le désordre dans le pays, mais on y va ». Puis en même temps, ils ont étendu aux lycéens, en même temps aux étudiants, et puis en même temps aux casseurs. Alors évidemment, ils disent qu'ils sont pas d'accord avec les casseurs. Je suis persuadé qu'il y a des contacts souterrains avec les chefs des casseurs. Mais enfin, là, on ne saura peut-être jamais.
Enfin, on sait qu'il y en a entre les étudiants anti-CPE. Enfin, j'ai publié il y a quelques heures, c'était hier, tard dans la nuit, n'est-ce pas, une nouvelle, mais qui n'est pas vérifiée. C'est quelqu'un de Toulouse qui nous a communiqué que les anti-CPE auraient voté la destruction de certaines vitrines lors des assemblées générales. Donc à ce moment-là, l'amalgame entre anti-CPE et casseurs est assez évident de ce point de vue-là. Enfin, c'était un secret
de l'origine. Ça m'étonne qu'à moitié, parce que j'ai reçu des mails, par exemple, d'une étudiante qui a beaucoup circulé cette semaine en France. Elle a montré que les prétendues assemblées prétendues démocratiques dans les universités étaient des assemblées révolutionnaires, c'est-à-dire que si quelqu'un se levait pour dire que il fallait reprendre le travail, on le traitait tout de suite de facho, de nazi, de n'importe quoi, et même il y avait des nervis qui l'évacuaient de la salle. De sorte qu'on était en pleine séance de la Convention nationale il y a 200 ans. Et alors qu'ils aient voté ce que vous venez de dire, pourquoi pas, c'est n'importe quoi. Et ce qui est anormal dans tout cela, c'est qu'il y ait des présidents d'université qui aient soumis au vote l'arrêt de l'université. C'est tout à fait intolérable. Et qui est des directeurs de lycée qui n'ont pas soumis au vote l'arrêt du lycée, mais qui a arrêté leur lycée, empêchant les lycéens voulant travailler de travailler. Alors vous savez, ça montre que l'état d'esprit général est extrêmement médiocre actuellement, et c'est vraiment l'effet de plusieurs décennies de socialisme, quoi.
D'accord. Est-ce que pour vous, dans l'ensemble, Villepin s'est bien comporté dans cette affaire, ou au contraire, il s'est trompé, il s'est obstiné, ensuite il s'est trompé une nouvelle
écoutez,
fois
Écoutez, je crois que Villepin, d'abord, à son départ, quand il a été nommé, je crois, il y a un an, bah oui, parce qu'il y a eu 100 jours, c'est à peu près il y a un an, comme je le disais à l'instant, il n'a pas pris le pouvoir, puisqu'il a remis le pouvoir aux organisations syndicales. Ce qui voulait dire que dès le départ, il se ficelait les mains, je ne pourrais rien faire sans votre accord. Et je répète, ces organisations syndicales ne représentent personne sinon la force de la loi et l'argent que le même Villepin leur verse. Alors c'est là le reproche majeur que je fais. Donc je te verse de l'argent et puis toi tu me fais la grève de temps en temps, etc. Sorte que je prévois même un éditorial pour dire Villepin trahi par ses amis, et ses amis c'est pas les députés UMP, c'est justement les organisations syndicales. Alors depuis lors, Villepin, il n'a pratiquement rien fait. Il a fait de ci, de là, des petits coups de menton, des petites réformettes, mais il n'a rien fait d'intéressant. Alors que s'il avait réalisé des réformes vraiment intéressantes et bien, bien calculées, je crois qu'il aurait pu passer s'il avait voulu. Mais je crois qu'ils sont formatés, y compris Villepin, Chirac et d'autres. Ils sont formatés aux mêmes idées, l'idée de l'énarchie, c'est-à-dire un espèce de crypto-socialisme, que l'État doit s'occuper de tout et que les personnes privées, la sphère privée ne doit s'occuper de rien. Mmh. Alors voilà. Et ça peut continuer comme ça pendant très très longtemps. Mais c'est absolument insupportable.
D'accord. Je rappelle à nos auditeurs donc qu'ils peuvent continuer de nous appeler via l'interface de Skype sur le site bafouet.com ou via email. Tout est sur le site, hein, sur la droite, vous trouvez tout. Il y a une autre chose. Pardon, oui.
Je peux rajouter une chose.
Je vous en prie.
Villepin, ils ont fait dans cette crise telle qu'elle était, elle était lancée. Ils ont fait une erreur majeure. C'est de cacher la vérité de la crise. On n'a entendu personne, ni Villepin, ni Chirac, ni personne, dire ce ne sont pas les jeunes, ce sont des groupes manipulateurs qui manipulent les jeunes. On n'a entendu personne dire il y a des soi-disant assemblées dans des universités, ce sont des assemblées révolutionnaires où la minorité ne se... Les gens auraient été informés, eh bien. Et songez qu'il y a des villes. Il y a Toulouse, Rennes et d'autres que les étudiants et les lycéens bloquent, c'est-à-dire qu'on tolère, alors évidemment ils ne peuvent pas bloquer toute la ville, mais on tolère que certaines grosses entrées de la ville sont bloquées. Vous imaginez le désordre incroyable qui doit se produire à l'intérieur de la ville si la ville se trouve bloquée. On est vraiment dans un état insurrectionnel et ça, le pouvoir l'a caché. Alors là, c'est une erreur stratégique grave, parce que s'ils avaient pris à témoin les Français de la réalité de la situation, je crois que les Français silencieux se seraient réveillés.
Mais on sent quand même quelque part que la presse française se réjouit intérieurement quand même d'un certain renouveau. J'appellerais plutôt ça un ersatz, un triste ersatz de l'esprit qui a soufflé sur mai 68 à l'époque. Et vraiment, cette jeunesse de gauche qui se lève, n'est-ce pas,
Tout à fait. Ah non, mais la presse française et les médias sont très à gauche. Ils sont acquis à l'insurrection plus qu'à gauche. Et ils interviewent tout le temps des personnes qui sont très, très favorables. Tout à l'heure, il y a une demi-heure, j'ai vu un automobiliste bloqué en disant « Oui, c'est très bien, les jeunes prennent leur destin en main. » C'est absolument incroyable, un père de famille qui dit ça, alors que moi, je trouve qu'un lycéen, c'est la meilleure façon de prendre son destin en main, c'est d'aller apprendre au lycée ce qu'il doit savoir. Mais
il y a une option grève dans les cours de la faculté de sociologie, dans le genre.
Ah oui, voilà. Non, mais c'est absolument insupportable. Il y a vraiment une dégradation de l'esprit public en France, venant souvent justement du sommet de l'État.
Enfin, je ne vais pas vous surprendre en vous disant que les Américains font des shows comiques et humoristiques sur les actualités françaises.
Ah oui, c'est désolant. C'est absolument désolant parce que pour l'image de la France. Et d'ailleurs, c'est extraordinaire parce que il y a un sondage qui vient de sortir. Non, c'est pas un sondage, justement, c'est une étude d'un organisme américain. Vous savez, ils ont des tas d'organismes libres, hein, puisque les universités sont très riches, ils lancent des enquêtes, etc. Et des enquêtes pour voir quelle était l'attitude des populations dans divers pays vis-à-vis du capitalisme. Alors là, c'est extraordinaire parce que le pays qui est le plus favorable au capitalisme, c'est la Chine, avec, je crois, je cite de mémoire, un 76% d'opinion favorable. Les États-Unis viennent pas tout de suite après. Je crois que la Suisse vient très très vite après.
Oui, peut-être ça, je crois que chez moi, c'est aussi une idole.
Voilà.
Encore. Là.
Les États-Unis viennent en quatrième position. Et très vite après, il y a le Nigeria. C'est assez extraordinaire. Et la France est 20e avec 36% d'opinion favorable. C'est-à-dire que beaucoup de Français croient que ce sont les fonctionnaires qui créent de la richesse alors que c'est le contraire.
J'aurais voulu parler de vous encore avant de finir, il nous reste 5 petites minutes, n'est-ce pas, sur le projet de loi de Sarkozy sur l'immigration choisie.
Alors, je suis très perplexe parce que ça peut partir d'un bon sentiment, mais beaucoup d'analystes disent que ça va rajouter à l'immigration parce que on va rajouter les choisis aux subis, puisque théoriquement c'est pour diminuer l'immigration subie. Il y a beaucoup d'analystes qui disent ça va rajouter des personnes puisque justement on ira les chercher puisqu'on les choisira. Alors, Je ne sais pas, peut-être qu'il essaye tout de même quelque chose, mais ce que je voudrais dire, c'est que maintenant, dans toute l'Europe, il y a beaucoup de pays qui prennent des politiques tout à fait restrictives pour l'immigration, et je signalerai aux auditeurs, je ne sais pas s'ils sont au courant, qu'aux Pays-Bas, c'est la première fois, peut-être la première fois dans un pays d'Europe depuis longtemps, que maintenant la balance migratoire est négative. C'est extraordinaire. Et ceci, pas du tout en mettant les gens dans les charters, mais simplement en supprimant des allocations, en supprimant des avantages, en faisant des difficultés, etc. De sorte que ça veut dire que si on veut, dans ce domaine, on peut. Alors évidemment, les Français qui j'en parle me disent « Ben oui, mais à ce moment-là, les immigrants que rejettent les Pays-Bas, ils vont venir chez nous. » Ben je dis « Ben oui, mais nous, nous pouvons faire la même chose. Et si toute l'Europe fait la même chose, eh bien il y aura moins d'immigrants, moins de pression, moins de gens qui courront, comme malheureusement ça se passe dans le Sahara, ce qui est épouvantable, ou qui prendront de mauvais bateaux pour venir. S'ils savent que, ben mon Dieu, les choses s'inversent. » Alors c'est très intéressant cet exemple des Pays-Bas, mais je n'ai pas dans la tête, parce qu'il faut que je consulte mes documents, un certain nombre de dispositions restrictives prises dans toute l'Europe depuis 5-6 mois, qui font que maintenant il y a des politiques plus dures vis-à-vis de l'immigration, et que peut-être, c'est peut-être le début d'un reflux, enfin ça pourrait être le début d'un reflux, parce que comme on sait, la situation est extrêmement difficile.
Mais cette idée de surenchère me semble assez juste. À mon avis, ça va être un truc pour faire croire aux gens qu'on va limiter l'immigration, alors qu'on ne va que lui ajouter une immigration de qualité. Ça, c'est quelque chose qui me semble assez plausible. Et ouais, c'est quand même encore vraiment, en tout cas en Europe centrale, en Suisse aussi, c'est très difficile d'en parler, c'est un vrai tabou. On n'aurait pas le droit, effectivement, de gérer son territoire, son pays et son état politique comme on l'entendrait. On est finalement obligé. Donc l'asile, ça c'est une chose, mais il y a souvent cette confusion, et à mon avis elle est un petit peu volontaire de la part de la gauche, entre asile et immigration économique directe.
Absolument. Mais dans ces dispositions prises par certains pays européens pour l'asile, il y a aussi des restrictions du droit d'asile. Enfin, je sais que c'est très difficile, le droit d'asile, bon, mais il y a aussi ces restrictions-là. Mais je ne savais pas qu'en Suisse, c'était aussi tabou qu'en France, cette question-là, je ne savais pas.
Disons, ça commence vraiment maintenant sur le tapis, il y a vraiment, bon, la droite en parle, ça permet, disons, à la question d'exister, mais justement le fait que la droite en parle, l'Union démocratique du centre, mais qui est en fait un parti dit de droite dure, n'est-ce pas, par la presse généraliste, c'est justement un projet qui est justement très mal vu. Enfin, il y a toujours cette amalgame sous-entendue entre nazisme, qu'on veut faire passer pour une idéologie de droite, n'est-ce pas, et puis droite patriotique, pour pas dire nationaliste souveraine, qui entend finalement gérer son pays comme elle l'entend. Et ça, les pro-européistes qu'on a en Suisse ne le supportent pas. Il faudrait finalement qu'on se fonde un petit peu dans cet énorme amalgame européen, et puis qu'on accepte de se taire tout simplement, et puis de laisser faire.
J'espère que vous ne fonderez jamais dans cet énorme amalgame européen, bien qu'étant pas suisse, je l'espère.
Oui, je crois que c'est déjà plus ou moins fait, hein, si vous voulez mon avis. Mais bon, ça s'en prend encore.
J'ai l'impression tout de même que il y a tout de même une forte résistance, que vous négociez bien, enfin que vos négociateurs négocient. Mais ce que je voulais dire, c'est que si le socialisme ne régnait pas, si c'était la liberté économique dont, vous savez, je suis le chantre, ce problème de l'immigration n'existerait pas, parce que les gens ne pourraient pas venir, sauf s'ils sont invités par quelqu'un, par un... quelqu'un qui habite la France et qui invite quelqu'un à venir chez lui, et sauf s'il se prenait en charge pour ses besoins en travaillant, etc. Et aux États-Unis, c'est comme ça. Alors les États-Unis ont Ils ont aussi un autre problème, les États-Unis, du même genre. Vous savez l'histoire des Latinos du Mexique où ils ont fait un mur, ça, où malheureusement les gens passent. Mais c'est pas une immigration. Il faut pas oublier que c'est très très différent de ce qui se passe en France et dans beaucoup d'autres pays européens. Parce qu'en France, les gens viennent pour bénéficier d'avantages sociaux et pas du tout pour travailler. Et les États-Unis, c'est un pays tellement tellement riche, et bien évidemment, ce sont des gens qui viennent pour s'enrichir par le travail, hein, les gens qui traversent le mur, puisqu'il y a un mur qu'ils arrivent tout de même à traverser, ensuite ils se mettent à travailler à des conditions tout à fait minables, mais ils sont pas du tout à l'aide sociale ou très peu, quoi. Alors là, c'est très très différent, mais c'est encore un domaine où la liberté économique a les solutions, parce que si les immigrés devaient demander à un camarade français « donne-moi les aides sociales, assure-moi librement pour que j'ai la santé, etc. », eh ben, ils ne viendraient pas, sauf bien sûr s'ils ont un ami qui dit « je te paye ton assurance santé, etc. » Mais là, quand ils arrivent, on leur donne l'assurance santé complète, d'ailleurs que beaucoup de Français n'ont pas, de sorte que c'est le mirage des avantages sociaux qui les attirent.
Voilà. Enfin, en ce qui concerne le problème californien, on a l'impression que le Mexique a trouvé le moyen de récupérer la Californie et le Texas. Hein. Vraiment, à bien démarrer.
Peut-être.
Je vous lis encore.
Mais mes amis.
Pardon, oui, je vous lis encore l'intervention de Michel de Paris, qui nous dit qu'il y a donc quelques jours, des étudiants ont envahi les bureaux de l'AFP.
Oui.
En criant le slogan, n'est-ce pas, de « et un, et deux, et trois mois fermes », c'est apparemment, je crois, la condamnation d'un des leurs, n'est-ce pas, pour cause de casse. Oui. Nous sommes tous des casseurs de ce système. Donc effectivement, il semblerait que l'amalgame casseur-étudiant soit non seulement réel, mais en plus revendiqué.
Ah oui, c'est intéressant.
Voilà.
Très intéressant.
Eh ben, je vous remercie vraiment d'avoir été avec nous ce soir.
T'en prie, à jeudi prochain.
À jeudi prochain, merci pour tout, Michel.
D'accord, au revoir, Adrien.
Au revoir. Chers auditeurs, nous continuons cette émission avec Roland Richard. On se passe un petit disque et on va le rattraper ensuite.
Petite Marie, je parle de toi parce qu'avec ta petite voix, tes petites manies, tu as versé sur ma vie des milliers de roses. Petite furie, je me bats pour toi pour que dans 10 000 ans de ça, on se retrouve à l'abri. Sous un ciel si joli que des milliers de roses. Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. D'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois. De leur amour plus bleu que le ciel autour. Petite Marie, je t'attends transi sous une tuile, dont toi le vent de la nuit froide me renvoie la ballade que j'avais écrite pour toi. Petite furie, tu dis que la vie c'est une bague à chaque doigt au soleil de Floride. Moi, mes poches sont vides et mes yeux pleurent de froid. Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. D'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois. De leur amour plus bleu que le ciel autour. Dans la pénombre de ta rue, petite Marie, m'entends-tu? Je n'attends plus que toi pour partir. Dans la pénombre de ta rue, petite Marie, m'entends-tu? Je n'attend plus que toi pour partir. Je viens du ciel et les étoiles entre elles parlent que de toi. Un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois.
Nous sommes de retour avec notre ami Roland Richard pour cette deuxième partie de Chronique de France. Je vous rappelle que vous pouvez toujours intervenir via Skype sur l'interface Chat With Me que vous trouvez sur le site www.bafouet.com en haut à droite, n'est-ce pas ? C'est assez visible. Vous ne pouvez pas le manquer. Pour les réfractaires à la modernité de Skype et l'Internet, vous pouvez toujours essayer l'email. Quant aux pigeons voyageurs, ça risque d'être un petit peu difficile, il fait orage ici à Fribourg, donc je vous déconseille ce type de moyen. On passe directement à notre ami Roland Richard. Roland, bonsoir.
Bonsoir Adrien.
Comment vas-tu ?
Écoute, ça va très bien, ça va très bien. Je suis tout doucement en train de récupérer ce que les gauchistes ont piqué pendant tant de temps. C'est-à-dire, je suis en cours de réélaboration de mes paramètres pour mon ordinateur.
Parce voilà. Que tu as été virusé par des vilains ennemis gauchistes. Oh, que c'est pas beau.
C'est le prix de la liberté.
Ouais, ça coûte cher.
Il faut savoir s'opposer, parfois par la manière la plus extrême, à la déferlante gauchiste qui sévit sur la France aujourd'hui.
Enfin, on les salue quand même bien fort. Sans eux, franchement, quel ennui sur Terre.
Mais bon. Tout à fait. Parce que finalement, c'est vrai qu'on leur tape dessus, mais qu'est-ce que... On n'aurait rien à raconter s'ils n'étaient pas là. Alors, donc, eh bien... Donc, je vais vous parler, je pense, ce soir, d'une expérience très intéressante qui m'est arrivée aujourd'hui. J'ai, figurez-vous, donc fait ce qui remplace le service militaire en France, qui s'appelle donc la journée d'appel de la préparation à la défense, donc un titre très pompeux pour dire qu'en fait, pendant une journée, on vous présente l'armée française, dont tout ce qu'elle a de meilleur, hein, soyons honnêtes, les beaux camions, les beaux... Comment ?
En une journée, c'est réglé, ouais.
Oui, non, mais c'est que, bon, bah, ils font ce qu'ils peuvent. Honnêtement, c'est quand même assez intéressant. Alors, tout a débuté assez tôt pour moi, parce que je vous avoue que j'étais un peu au radar ce matin. Tout a débuté, donc je suis parti assez tôt ce matin de chez moi. Et je suis arrivé vers 8h30 au camp des loges, donc pour les habitués de la région parisienne, c'est un endroit tout près du stade, donc de l'endroit d'entraînement du Paris Saint-Germain. Donc et donc voilà, là vous avez le quartier général avec l'état-major d'Île-de-France, donc c'est vraiment quelque chose de très important, hein. Et donc voilà, donc bah, ça s'est très bien passé, hein, quelques présentations très simples, avec un module tout d'abord c'était le retour à l'instruction civique lycéenne, qu'on nous réapprenait ce que c'était que les devoirs, les droits. Bon, finalement, c'est un rappel toujours intéressant à avoir, surtout que en ce moment, il y a beaucoup de ces droits qui sont bafoués en France, même s'il y en a d'autres qui sont surexploités, d'autres sont totalement oubliés. Les uns sont totalement oubliés pendant que les autres sont très utilisés, toujours comme ça. Et donc un premier module là-dessus, un deuxième module ensuite sur la défense et puis donc sur les acteurs de la défense, donc en fait comment ça se passe concrètement, qui donne les ordres, etc. Et puis un dernier module sur les métiers de l'armée, donc en général l'armée de terre, armée de l'air et armée la marine, armée de la mer. Et donc c'était très intéressant, avec aussi un test de français. Alors j'ai trouvé ça très amusant, en fait, la façon dont ils nous ont déguisé ça pour nous dire qu'en gros c'est pour dénicher les gens qui savaient pas s'exprimer. C'est très drôle, ils nous ont dit oui, c'est les tests pour vérifier que vous n'êtes pas dyslexique, et puis au cas où, pour vérifier si on ne pourrait pas vous aider pour vous donner des cours de langue française, qui est quand même assez aberrant, parce que normalement il n'y a que des jeunes français qui viennent à ces journées d'appel à la préparation à la défense, Donc on fait des tests de français le jour, l'unique jour de service militaire que nous allons faire, probablement toute notre vie, pour 95% des jeunes.
Mais est-ce que oui, tu penses, bon, est-ce que tu avais l'impression qu'ils avaient franchement une envie de recruter, ou au contraire plutôt de sélectionner et de filtrer?
Ils se sont défendus de dire cette journée est là pour recruter. Ils disent en fait, et honnêtement je pense que c'est possible, parce que étant donné le chômage qu'on connaît aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se retournent vers l'armée, parce que l'armée finalement elle propose ces six mois. Alors c'est nous, ils nous rappelaient ce chiffre assez impressionnant de plus de 400 métiers proposés par l'armée. Et de fait l'armée qui est vraiment l'un des lieux de recrutement par excellence, et ils nous disaient que de toute façon ils avaient plus de demandes que d'offres. Donc de fait, je pense que c'est pas vraiment une affaire de recrutement. Non, je pense que c'est plutôt une... Non, c'est que... Et ça c'est assez bien vu aujourd'hui. Je crois que c'était plus... cette JAPD est plus destinée à faire connaître l'armée aux jeunes. Et surtout à essayer de changer l'image de l'armée aux yeux des jeunes présents. Donc c'est vrai qu'on a eu quand même un sous-officier et un officier de réserve. Donc quand même pas des demi-portions. On a eu deux adjudants, donc deux sous-officiers et un commandant, donc un officier qui lui était un officier de réserve puisqu'il avait pris sa retraite en tant qu'officier officier militaire normal, j'ai envie de dire, puisqu'il dirige en même temps sa boîte. Alors donc voilà, non, c'était vraiment une très bonne expérience. À savoir également quand même qu'on nous a présenté l'armement français comme l'un des tout meilleurs armements au monde.
Ouais.
De fait, il y a cette réputation comme quoi l'armement français serait le plus développé technologiquement parlant, avec le fameux char Leclerc, qui est le seul char à pouvoir tirer tout en avançant, et puis le fameux FAMAS, donc le fusil d'assaut français, qui serait l'une des meilleures armes du monde. C'est assez rigolo de voir qu'en fait on est chauvin jusque dans nos casernes.
Je crois que c'est plus du chauvinisme que de la réalité. Enfin, moi, j'ai quelques amis qui sont spécialistes et le FAMAS n'a pas la réputation chez nous qui est chez vous. Hein, ça, c'est...
non, mais disons qu'en tout cas, on s'entretient une réputation en France d'avoir un bon armement. Alors après, est-ce que c'est une réalité? C'est toujours comme ça, on est toujours très fiers de ce qu'on fait en France. Et puis, on a souvent tendance à dénigrer les autres. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé un peu aujourd'hui. C'est assez drôle. On s'est rendu compte que même dans l'armée française, on n'aimait pas beaucoup l'armée américaine. L'armée anglaise, bon, elle est rivale, mais bon, elle est quand même pas trop loin, mais on sent qu'il y a quand même... Oui, en fait, ce qui est très amusant, c'est qu'on a l'impression que dans l'armée, il y a tous les vieux clichés qui demeurent. Donc, c'est vraiment très très amusant. C'est qu'il y a vraiment le côté, les Anglais sont à part, ils roulent à gauche, bon, etc. Ils sont sur leur île, bon, ils ont la livre sterling, enfin, voilà, bref, ils font jamais rien comme tout le monde, ces Anglais, pour pas dire parfois un peu plus. Eux, ils nous appellent les grenouilles, c'est la froggers, et nous, on les appelle les roast beef en France. Donc, c'est. Vous voyez, alors les termes resurgissent comme ça dans un élan rhétorique du commandant. Alors, vous imaginez.
Non, oui. Moi, j'ai appris avec toi qu'il y avait des réservistes en France, parce que tu vois, en Suisse, le système a été très longtemps très traditionnel, et puis maintenant évolue un petit peu vers une armée de métier. Alors, en Suisse, ça nous gêne énormément, parce que en Suisse, c'était le citoyen libre, était vraiment l'homme armé qui défendait son pays, et donc le militaire, c'est le citoyen. D'ailleurs, on allait même voter encore il n'y a pas si longtemps, je crois que ça se fait encore dans certains endroits reculés de la Suisse centrale, l'épée au côté, la main en l'air, comme ça, sur la place publique. Et je veux dire maintenant, bon, ça change, bon, généralement, la question est assez simple, on va au recrutement, on a plusieurs journées d'information, et puis, qu'on le veuille ou non, ensuite, on a un examen médical, on y va, on est incorporé, si on est en bonne santé, évidemment. Et puis, alors, à ce moment-là, c'est 4 mois, un peu plus de 4 mois, l'été, pour la première école de recrue, puis ensuite on peut grader, enfin on doit grader, on n'a pas le choix, en tout cas pour le sous-officier c'est obligatoire, si on est nommé en tout cas. Et puis ensuite c'est jusqu'à 45 ans, je crois, enfin autrefois c'était beaucoup plus tard, mais maintenant c'est 45 ans, on a 2 à 3 semaines par an comme ça. C'est une façon histoire de boire des verres payés par l'État et de faire quelques marches avec un sac de 40 kilos, donc je veux dire c'était un petit peu... Chez nous on a vraiment beaucoup, et moi personnellement je suis assez attaché à ce principe, l'armée c'est le peuple.
Oui.
Ce qui fait que...
Oui,
c'est ça.
Alors, en France, il faut voir en fait qu'il y a une véritable professionnalisation de l'armée. Aujourd'hui, donc, c'est ce qu'on a eu les chiffres là aujourd'hui, donc c'est quand même assez intéressant. On a donc 350 000 militaires qu'on pourrait appeler de carrière, c'est-à-dire qui leur métier, c'est militaire comme d'autres, c'est comptable, etc. Donc on a 350 000 personnes dont la profession est militaire. On a 90 000 civils qui travaillent en rapport avec le ministère de la Défense. Donc eux, ce sont des gens qui travaillent directement avec les armées françaises, sans être pour autant eux-mêmes des militaires. Et puis finalement, on a ce qu'on appelle donc les réservistes, 90 000 réservistes en France. Et donc alors là, ça va donc, hein, c'est toujours pareil, des officiers jusqu'au simple soldat, en passant donc par les sous-officiers. Et donc comment ça se passe? En fait, lorsqu'on est un jeune français comme moi, on peut faire quatre choses en fait. Ils nous ont proposé quatre possibilités, si on veut évidemment avoir une expérience dans l'armée, aussi courte soit-elle, hein. La première proposition, c'est de faire du volontariat. Alors le volontariat, c'est un an jusqu'à 5 ans. Donc en fait, tous les ans, c'est renouvelable. Et ensuite, on renouvelle. Alors je crois que ça peut aller jusqu'à 15 ans, le volontariat. Je ne voudrais pas me tromper, mais il me semble que c'est ce que j'ai compris. Donc là, on est volontaire, et donc là, on devient en fait militaire à part entière, et on en fait sa profession. Ça, c'est la première proposition. La deuxième proposition, c'est une préparation militaire de 15 jours, qui a lieu donc souvent en été, où là, en fait, on choisit où on veut aller, donc parachutiste, troupes alpines, etc., donc transport, santé. Et donc là, en fait, on fait 15 jours, c'est comme un camp scout, quoi, mais en honnêtement, beaucoup plus difficile physiquement et nerveusement.
Avec les grillades.
Et c'est une préparation qui est destinée à se dire, est-ce que l'armée est faite pour moi? C'est-à-dire que c'est pour les gens qui se posent des questions, à savoir, moi j'aimerais bien être réserviste, moi je voudrais faire du volontariat, alors est-ce que vraiment c'est ce qui me conviendrait? Et donc là, on fait 15 jours de préparation durant l'été, et si on veut, après, on demande à devenir un soldat de réserve. Donc ça, c'est les deux premières propositions. La troisième proposition, c'est un engagement de réserviste. Alors là, c'est 5 ans. 5 ans où l'on fait de 5 à 30 jours, où on donne en fait ces 5 à 30 jours à l'armée française, moyennant rémunération en retour. Et enfin, la dernière chose, c'est donc là, on a trois positions. La quatrième position, c'est la réserve, mais pour un an seulement, renouvelable 5 fois. C'est-à-dire qu'on s'engage, et donc pareil, de 5 à 30 jours, et donc on fait ça durant l'année, payé au SMIC, c'est-à-dire le salaire qui est à 7,62 € l'heure.
D'accord. Voilà. Et bon, alors, je veux dire, penses-tu que la France a bien fait de laisser tomber le service militaire? Je veux dire, en Suisse, le service militaire a longtemps représenté une façon pour les gens de la campagne et de la ville de se rencontrer, et surtout une façon pour les citoyens suisses de se rencontrer. Donc tu sais qu'il y a 26 petites républiques libres et indépendantes, n'est-ce pas, avec leurs dialectes différents et leur façon de vivre tout à fait différente. Chacun son fromage et son pinard, évidemment, toujours différent de celui d'à côté. Et puis, il y a donc quand même 4 langues parlées, bon, principalement 3 langues principales, mais 4 langues nationales, donc avec le romanche, qui est une langue parlée par 200 000 Suisse dans les Grisons, donc tout à l'est du pays, au sud, dans les Alpes, et ça permettait quand même un petit peu aux gens de sortir de leur trou, de se rencontrer, de voir un peu le pays, de connaître le pays. Ça a pas mal aidé à la cohésion nationale, et puis un petit peu à l'économie de certains bleds de montagne qui vivaient des casernes qui étaient installées là-bas. Donc, mis à part l'aspect économique qui m'intéresse moi, mais l'aspect social, donc l'idée d'aller apprendre un petit peu les duretés de la vie, et de rencontrer d'autres Français, est-ce que... Et puis aussi l'aspect de défense nationale que j'ai évoqué tout à l'heure. Est-ce que finalement la France a bien fait de laisser tomber le service militaire?
Moi, je dirais que au niveau social, alors évidemment, hein, tout ce dont tu viens de parler, évidemment, est très important. Défense nationale, cohésion sociale, le fait de se rencontrer. Mais je vais aller plus loin. Dans un pays où quand même les origines sont extrêmement diverses, et notamment les origines géographiques, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens qui viennent d'Afrique du Nord, on a beaucoup de gens qui viennent d'Afrique occidentale, c'est-à-dire donc toute la partie Côte d'Ivoire, Sénégal. Dans un pays également où on a quand même beaucoup d'Européens aussi, grâce ou à cause, alors après selon les points de vue, de l'Union Européenne, c'est vrai que plus, à mon avis, encore, oui, c'est un aspect de défense nationale et plus centré, à mon avis, une affaire de patriotisme. C'est-à-dire que le problème en France, c'est qu'on n'est plus patriote du tout. Alors ça, évidemment, hein, je sens l'injure arriver, je vais me faire taxer de nationaliste, mais...
c'est vrai, mais, quoi, franchement. Non, vas-y, je t'écoute.
Oui, non, mais honnêtement, ce qui manque en France réellement, c'est un amour des couleurs françaises. C'est-à-dire qu'on a les chauvins, en fait, c'est un peu tout ou rien. Soit on est chauvin, moi j'en fais plus ou moins partie, soit, enfin chauvin, je veux
c'est
dire,
pas c'est, qui
c'est,
France,
c'est bon c'est esprit, même... hein, c'est...
C'est le premier, produit, c'est le premier produit d'exportation, le chauvin, chez vous, quand même, il faut dire.
Oui, avec le râleur.
Oui, ça, c'est vrai.
Le râleur, l'arrogant et le chauvin, voilà. Ouais. Ça, c'est les trois défauts qu'on nous attribue le plus souvent. Donc, chauvin va avec arrogant, finalement. Mais, on est soit chauvin, soit on en a absolument rien à faire. Donc, moi, je pense que et en fait, ça, c'est quand même l'avantage que représentait le service militaire, en dépit de sa durée, parce que ça durait, c'était un an en France, il y a encore, je sais plus, je crois, c'est il y a 20 ans, un peu moins qu'on a...
c'est ça le problème, c'est qu'un an, ça te coupe quand même la carrière universitaire, ça peut quand même représenter...
Voilà, c'est-à-dire que ça faisait une année de break, 12 mois, hein, alors maintenant c'est remplacé, on peut faire une année de volontariat, si on veut. Donc là, on fait un break dans ses études, et on fait une année de volontariat.
Donc le volontariat, ce serait quoi? Ce serait un service civil où on va... je sais pas, dans une école à l'étranger, des petits enfants qui meurent de faim, genre de truc.
Oui, alors après ça peut se manifester de différentes façons. On fait ce qu'on appelle, on fait ses classes. Si on est bon, on peut même espérer. Je t'avoue que sur les durées, j'en sais rien. Hein. Mm-hmm. Mais je sais qu'au bout de plusieurs années de volontariat, on peut même espérer une promotion au rang de sous-officier. Et puis, bah, pourquoi pas après, si vraiment on est excellent. Mais alors là, c'est au bout de plusieurs, vraiment beaucoup d'années, on peut espérer être officier. Bon. Non, c'est vrai que le vrai problème aujourd'hui, c'est que on n'a pas su en fait faire une transition intelligente, à mon avis, par rapport au service militaire français. Bon, moi, j'étais pas né à l'époque, donc je t'avoue que je suis, enfin, c'est là vraiment, c'est tout nouveau pour moi, donc je vais peut-être dire des choses qui sont peut-être un peu lancées, sans avoir toutes les connaissances sur l'étendue du problème, mais j'ai l'impression que le service militaire, on n'aurait pas dû supprimer entièrement ce qu'il est. Alors, quant à en rester à un an, je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose de l'avoir réduit. Le problème, c'est qu'on l'a pas réduit, on l'a supprimé. C'est-à-dire qu'on est passé de un an à un jour. Bon, un jour, c'est trop peu. Honnêtement, c'est trop peu. Un, pour se rendre compte de ce qu'est l'armée française. C'est-à-dire de se rendre compte, finalement, que les militaires sont comme vous et sont comme toi et moi, hein, et qu'il n'y a pas de réelle différence. Simplement, eux, ils sont payés pour défendre le pays et pour aider les populations... Parce qu'aujourd'hui, d'opération de guerre, on est passé à opération de maintien de la paix.
D'accord,
donc c'est, ouais. quand même assez significatif. Mais non, le vrai problème, c'est que oui, je pense que la Suisse a un bon compromis avec ces 4 mois. Je suis pas
enfin,
sûr.
Je te dirais quand même que maintenant, on vient de mettre, mais c'est à option, donc on peut choisir, on vient de mettre un an. Donc je veux dire, c'est soit 4 mois et on continue ensuite sur plusieurs... plusieurs années à faire une semaine par-ci, une semaine par-là, soit on fait son année, on boucle et on est libre pour la vie. C'est
ouais.
Un choix. Et effectivement, il y a 2-3 personnes qui choisissent, comme ça connaît un certain succès quand même, qui choisissent l'année, parce qu'ils n'ont pas de projet particulier quand ils sont jeunes, puis ils se disent, bon, profitons-en, ça fait faire
oui,
du sport, et puis on s'en débarrasse. Ça devrait
voilà.
Être un choix. Voilà, mais tu vois, je veux dire, bon...
Ouais. Tu es nourri, logé, blanchi, tu es payé. Et puis en plus, ça maintient une je veux dire, ça t'apprend une certaine discipline.
Ouais, c'est pas toujours les jours, faut le bander. Moi, j'en ai fait une partie. Enfin, moi, je me suis fait mettre à la porte, évidemment. Mais je veux dire, j'en ai fait une partie. C'est pas tous les jours marrant. Il faut tomber sur une bonne équipe, et puis il faut avoir une bonne arme.
Mais oui, mais c'est toujours pareil. Ouais. C'est toujours pareil. Non, puis après, le problème, c'est aussi une question de personne. Hein, je veux dire, il y a des gens très bien qui supportent pas l'armée. Hein, c'est pas. Je veux dire, ça, c'est même pas qu'ils supportent pas l'armée, les gens, c'est qu'ils supportent pas l'esprit. C'est-à-dire l'esprit de service. Avec discipline pour la discipline, etc. Ça les saoule, quoi. Bon.
Alors moi,
honnêtement,
ouais,
oui.
Pardon, je t'interromps parce que on arrive bientôt au terme de cette émission. Moi, j'aurais voulu encore parler d'une dernière chose. Donc, j'ai appris que finalement, ce service militaire maintenant était même obligatoire pour les femmes chez vous.
Et ça. La journée.
Voilà, ouais.
Ah oui, bien sûr, oui.
Donc moi, je dois dire, c'est une chose. Je vais peut-être paraître horriblement vieux jeu pour nos auditeurs. Enfin, en Suisse, c'est pas obligatoire pour les femmes, mais c'est facultatif comme les pompiers peuvent le faire si elles veulent. Et effectivement, on trouve toujours de bonnes grosses zurichoises, suisses allemandes, comme ça, qui descendent de leurs collines pour venir sauver la patrie et sauver le pays. Alors, ouais. Bon, mis à part quelques petites ribauderies dans les couloirs de caserne de temps en temps, il faut bien que jeunesse se passe, je dois dire que je suis sur le principe, je suis scandalisé par l'idée qu'on envoie des femmes se faire, qu'on accepte le principe d'envoyer des femmes se faire tuer sur le front. Je veux dire, ça me choque au plus haut point, parce que pour moi, une armée, c'est justement les hommes qui, en général, ne servent à rien, ou à peu de choses, on envoie se les faire flinguer pour sauver ce qu'il y a de plus précieux, c'est-à-dire la veuve et l'orphelin, la femme et les enfants. Et maintenant, c'est exactement l'inverse, mais je sais qu'il y a une photo de Paris Match où on voyait, et ça c'est aussi ça, effectivement, je peux être un petit peu vieux jeu. C'était une marinière, il n'y a pas d'autre terme, une marinière américaine, donc de la marine, qui partait sur son porte-avions et qui était en larmes et qui serrait comme ça ses enfants avant de partir. Et t'avais le gentil mari qui tendait un mouchoir pour lui dire au revoir, les larmes aux yeux. Donc ça, ce genre de truc, ça me rend malade. Et je sais par exemple qu'il y a eu au Kosovo, ils ont dû affréter un porte-avions, ils ont rapatrié 700 femmes enceintes. Parce que le seul truc qu'elles trouvent quand elles s'ennuient trop du pays, c'est de se faire faire un gamin par le premier troupe qui est venu, et puis d'être rapatriée comme ça. C'est une façon, c'est un peu la blessure, si tu veux, une façon de pouvoir rentrer assez vite au pays. Donc, je sais pas pour toi, mais moi, envoyer les femmes au front, ça, c'est sacrilège, quelque part.
Alors, il faut voir que l'armée française est l'une des plus en point sur la question, parce que il y a 14% de femmes chez les officiers dans l'armée française, donc c'est l'une des armées les plus féminisé et ça ne cesse de monter. C'est-à-dire qu'en 98, il y avait 6% de femmes officiers et en 2006, il y en a 14%, presque 14%. Donc c'est en flèche que ça monte. Alors, la question en fait, en France, n'est pas vue du tout sous l'angle la femme-enfant et puis l'homme qui finalement, il sert simplement à... J'ai envie de dire, il sert simplement à semer, puis ensuite il va se faire tuer. Mais donc, c'est vu sous la question de la compétence. En France, et ça c'est vraiment, c'est l'un des produits, j'ai envie de dire, de mai 68. Alors après, là, c'est un produit où je suis plus mesuré. D'habitude, je suis assez féroce sur 68, mais là, je t'avoue que je suis mesuré, parce que je sais pas, j'ai pas trop d'opinion sur la question. Mais disons que, en France, on s'est dit, avec mai 68, la femme a autant de capacité intellectuelle et physique que l'homme. Alors après, c'est vrai, hein, la femme n'est jamais descendue en dessous des 10 secondes au 100 mètres, bon. Mm-hmm. Mais bon, la question n'était pas là. La question était donc de dire, la femme peut manier une arme, la femme peut commander, donc la femme peut être dans l'armée. Et la femme, en plus, a un côté humanitaire peut-être encore plus développé que l'homme, donc il n'y a pas de raison finalement, ou du moins autant développé que l'homme, il n'y a pas de raison qu'elle ne puisse pas être dans l'armée. Bon.
Mais ouais, justement, il ne s'agit pas de la question de la compétence, il s'agit justement au contraire de la question de la vocation. Finalement, oui, qui reconstruira un pays décimé après une guerre, par exemple ? C'est pas les hommes.
Oui, mais la question aussi, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, en tout cas en France, il n'y a pas eu d'opération de guerre, c'est-à-dire de combat réel, depuis la guerre du Golfe, où la France a participé. Depuis, la France n'a fait, entre guillemets, que des missions de maintien de la paix. C'est-à-dire où elle était dissuasive et où elle devait, en fait, rétablir un équilibre dans le pays où elle arrivait. Bon. Donc, du coup, c'est vrai que sur cette base-là, la femme n'est pas du tout... Enfin, je veux dire, il n'y a pas de raison à ce moment-là, puisqu'il ne s'agit plus de combat. La femme peut tout à fait... Enfin, je veux dire, même dans la vision que tu viens de nous expliquer, c'est que cette vision-là, elle existe, et je la comprends tout à fait, mais il faut voir qu'aujourd'hui, en tout cas, ce qui est décrit, c'est qu'il n'y a plus de combat. En tout cas, pour l'instant, la France n'est pas en guerre avec quelqu'un.
On est d'accord, mais le jour où la France est engagée, les 14% d'officiers iront se battre.
Bien sûr, bien ah, sûr. Voilà. Bien c'est sûr, mais pour l'instant, la France n'est pas en guerre. D'accord. Donc c'est ça.
Et on souhaite.
Alors après, c'est vrai que le jour où la France sera de nouveau en guerre, bon... Dieu nous garde de ce moment, hein. Mais oui, la France, le jour où la France sera de nouveau en guerre, bah oui, il faudra envoyer les officiers qu'on a formés, qui sont très compétents, et puis bah certains mourront, hein, ça c'est sûr. Certaines femmes, c'est des chefs, des sous-officiers. Enfin, puis,
moi, j'ai un ami dans la police à Genève, donc ils ont des équipes mixtes. Hein. Donc généralement, c'est trois hommes et une femme. Ils nous ont dit, enfin moi, il m'a confié que quand il faisait une descente dans un café, eh ben il y en avait un qui ramassait les cartes d'identité, et puis il y en avait deux qui gardaient la policière femme. Tu vois, c'est un petit peu ça. Je veux dire, ça a été prouvé, il y avait des généraux américains qui en parlaient. Ils disaient finalement, le problème quand on envoie des femmes au front, c'est qu'on fournit du matériel à viol à l'ennemi. C'est quand même un petit peu ce problème. Enfin, moi, je suis peut-être effectivement complètement en décalage avec mon siècle. Je conteste de loin pas les compétences des femmes, hein, que ce soit physiquement même. Je veux dire, on voit des femmes qui sont bien plus sportives. Moi, il y a certaines femmes que je n'arriverais pas à suivre, que ce soit aux 100 mètres ou à la course ou à la marche ou Dieu sait quoi. On ne conteste sûrement pas les compétences intellectuelles, loin de là, ni même les capacités de commandement. On a vu des reines d'Angleterre qui étaient bien plus aptes au commandement que certains grands rois, mais ça me... Je sais pas... Bon, c'est peut-être... Nous, les Valaisans, on est un peu comme les Italiens. Tu vois, la mame, c'est quelque chose de sacré. Et puis, envoyer maman avec un flingue sur le front, c'est... ça va pas, quoi.
Oui.
Il me semble, finalement, dans l'esprit des peuples, la femme a plus de valeur et que finalement, la guerre devrait être faite pour la protéger. C'est le seul bien qu'on puisse vraiment protéger ça et l'enfant. Non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils sont précieux. Mais oui, je suis un peu romantique.
Non, mais je vois bien. Non, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, hein, moi, je suis dans un club de karaté où il y a des femmes. Et ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, il y a presque plus de hargne de la part de ces quelques femmes qui viennent que les hommes. Et moi, je me souviens d'un épisode très drôle. Je crois que c'était la fille du président du club de Saint-Germain. Donc, vous voyez, c'est très local. Hein. Et elle était ceinture noire. Et en fait, aucun mec ne voulait la combattre, quoi. Mmh. Ils étaient tous, mais ils se pissaient dessus parce qu'elle était super balèze, quoi. Donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on vit malgré nous une transition, malgré nous ou avec nous, hein, ça dépend des gens, hein. Mais, et puis, bah voilà, alors après, savoir, c'est vrai qu'on mesure pas forcément les conséquences aujourd'hui puisqu'on n'est pas en guerre, mais d'un autre côté, c'est la compétence des femmes dans l'armée française n'est absolument pas à remettre en cause, et en plus, c'est l'un des seuls secteurs français où la femme gagne autant que l'homme à poste égal. C'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, en moyenne en France, une femme, par exemple, qui est cadre, et un homme qui est cadre, donc le même boulot dans la même boîte, il y a à peu près 10% d'écart, la femme touche 10% de moins sur son salaire. Eh bien, dans l'armée, c'est l'un des seuls secteurs français où ça n'est pas vrai, où la femme gagne autant que l'homme à grade égal.
D'accord.
Ou à la profession. Donc c'est
d'accord.
Donc en fait c'est presque un secteur de pointe pour la femme, parce que c'est un moyen de dire bah oui, une femme militaire c'est quelqu'un qui a finalement dépassé aux yeux des aujourd'hui, hein, c'est comme ça que c'est perçu, qui a dépassé son statut féminin pour arriver au statut militaire qui est finalement un statut neutre presque. C'est presque philosophique en fait, c'est pas dépassé un simple problème social, c'est presque devenu une question philosophique. C'est-à-dire que il y a une question de neutralité. Le militaire, c'est un militaire. C'est plus un homme ou une femme, c'est un militaire.
Donc, est-ce qu'on peut dire
avec
que
une mission.
Est-ce qu'on peut dire que l'armée française maintient la paix dans la guerre des sexes?
Comment?
Est-ce qu'on peut dire que maintenant que l'armée française a réussi à maintenir la paix dans la guerre des sexes? J'essaie
oui,
de faire
alors...
des mots, tu vois.
Non, mais c'est vrai que ce côté-là de la parité de homme-femme dans l'armée est assez. Est vraiment très très curieux et à la fois très intéressant, c'est-à-dire qu'il faut l'armée pour que finalement c'est là où la femme, entre guillemets, est la plus égale de l'homme, si la phrase peut être dite. Mm-hmm. Et c'est quand même ça mais c'est vrai qu'on a vu, on va peut-être pas prolonger, mais j'ai vu une sous-officier, donc une sous-officier de la marine française, qui est, elle, je crois qu'elle était c'était une réserviste, et qui disait, c'est vrai que bon, donc moi je pars 10-15 jours d'affilée, et puis donc je vois plus mes enfants, ou parfois c'est pas une sous-officier de réserve, non, c'est vraiment l'armée. Elle disait, bah parfois je pars 4 mois, et donc je revois pas mes enfants pendant 4 mois. Et là donc c'est mon mari qui assure tout, quoi, en fait, derrière.
Ouais.
Et c'est vrai que ça faisait curieux, parce qu'on se disait, bah oui, les pauvres gamins. Mais bon, on est dans un monde qui change, quoi. Et vraiment l'armée, c'est le plus symbolique en France, du monde qui change. C'est le monde où les femmes font de la muscu, des arts martiaux, où elles tirent au FAMAS, où elle part en mission 5 mois, sans revoir ni mari ni enfant. Et puis voilà, puis elles reviennent. Et puis alors là, c'est les effusions. Et ça, enfin, c'est vraiment, c'était particulier à voir. Vraiment, ça m'a touché. Je peux pas expliquer de quelle façon vraiment, mais ça m'a touché.
Vraiment, arrêtez le monde, je veux descendre. Enfin, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'armée française fait bien sa pub. Hein, en tout cas, on voit que ça, on a l'impression que ça t'a plu. Donc,
oui, ça donne envie. Oui, ça donne envie. Franchement, voilà. Ça donne envie.
Et puis, je crois qu'il te faut un entraînement de commando pour pouvoir aller avec ton portable dans les manifestations de nos amis anti-CPE.
Mais c'est pour ça que je continue les stages de karaté à répétition.
D'accord.
Pour maintenir un niveau physique au-delà de n'importe quel gauchiste.
Voilà. Roland, je te remercie, je te souhaite une bonne soirée. Chers auditeurs, on vous retrouve bientôt. Il y aura peut-être une émission spéciale demain pour parler du cas de l'initiative parlementaire du Conseil national Freisinger sur le financement du terrorisme palestinien par la Confédération helvétique. Ce n'est pas encore tout à fait fixe, mais on vous préviendra dans la journée de demain sur le site. Et sinon, on vous retrouve la semaine prochaine. Roland, merci pour tout.
Merci beaucoup, Adrien.
À bientôt, au revoir.
À bientôt, au revoir.